Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. La grève jeudi à l'école pourrait bien ressembler à une journée morte. Les syndicats annoncent un mouvement massif. Vous les entendrez dans ce journal. La colère des professeurs. Vous entendrez aussi celle des parents. Emmanuel Macron monte en première ligne. À 3 mois de la présidentielle, il tente justement de désamorcer. La gestion sanitaire à l'école pourrait bien devenir un problème politique majeur. Y aura-t-il des autotests pour tous? Avec les nouvelles règles, il en faudra encore plus pour tous les élèves qu'à contact. Un deuxième suspect en garde à vue après des agressions de piétons traînés en voiture à Noisy-le-Sec. Vous entendrez l'une des victimes. Comment faire le plein d'essence sans se ruiner? Mission impossible puisque les prix à la pompe battent de nouveaux records. Ça se calme du côté de la météo. Beaucoup de soleil demain sauf sur un quart nord-ouest, nous dira Marlène Duret. L'invité éco, on va parler du moral des patrons car malgré la crise, il est bon. Et puis on verra les gros titres de la presse pour demain matin. Les syndicats d'enseignants promettent une mobilisation historique. La grève jeudi à l'école s'annonce massive contre le nouveau protocole sanitaire. Guylaine David est la porte-parole du SNUIPP, premier syndicat du primaire. Et pour elle, c'est un message très clair qui sera envoyé jeudi au gouvernement.
C'est une mobilisation de très très grande ampleur, c'est une mobilisation historique. On est sur des taux de grévistes qui nous remontent, qui sont de l'ordre de 75% de grévistes, avec près de la moitié des écoles fermées. Donc on a bien senti qu'il y avait une exaspération du terrain, d'abord sur les annonces et la façon dont le ministre gère la crise depuis le début de la crise sanitaire, et puis avec une demande de sécurisation de l'école, parce qu'on se rend compte que tous les jours qu'on a accru les contaminations entre les élèves depuis quelques semaines, hein, même avant les vacances de Noël, parce qu'on a modifié le protocole. En gros, plus il y a de contamination, plus on allège le protocole. Et on voit bien qu'il y a une non-prise en compte en fait, de la réalité du terrain par le ministre.
Guylaine David du syndicat d'enseignants SNUIPP avec Louise Salé. Les profs massivement en grève jeudi avec un sentiment d'exaspération palpable aussi chez les parents d'élèves. Direction Marseille, à la sortie des classes, c'était le même sentiment de ras-le-bol qui dominait aujourd'hui. Reportage Stéphane Burgat.
La grogne ne retombe pas. 3 autotests en 4 jours, c'est beaucoup trop pour cette maman.
Oui, mais c'est une horreur pour les enfants, ça les traumatise. Ils ne veulent plus mettre un truc dans le nez, c'est vraiment atroce. Quoi. Voilà. D'abord, ça leur fait mal, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas indolore, c'est gênant, ça les stresse. Surtout quand on sait qu'il existe des tests salivaires PCR qui pourraient être mis en place, qui sont beaucoup moins traumatisants et qui sont tout aussi efficaces.
Certains refusent maintenant cette multiplication du nombre de tests sur leur enfant.
Cette semaine, pour la grande, je ne la mets pas à l'école, parce que la maîtresse a le Covid. Les enfants, c'est un vrai calvaire pour eux, hein, que ce soit les autotests ou les antigéniques. Du coup, je la garde à la maison cette semaine pour éviter de devoir lui refaire encore les couvillons dans le nez.
Et d'autres réfléchissent tout simplement à ne pas appliquer le protocole à la lettre.
Faire un test, pourquoi pas, mais en faire 3 dans une même semaine, c'est pas possible. Quoi. Là, je vais le faire, mais bon, si ça perdure, c'est sûr que je pense qu'on va faire un test sur 3. Quoi. Voilà, c'est très gaspillé.
Et beaucoup de ces parents d'élèves doutent tout simplement de la qualité de ces prélèvements réalisés à la maison dans des conditions aléatoires. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
On a entendu la voix des profs, on a entendu celle des parents, des deux côtés, même constat. Non seulement les annonces de Jean Castex hier soir n'ont rien réglé, mais la colère monte et cet après-midi, Emmanuel Macron a tenté d'éteindre l'incendie.
Ce que le Premier ministre a annoncé hier est une mesure de simplification qui enlève certaines contraintes. Il n'y a pas de système parfait parce que nous devons continuer de nous battre contre ce virus. Je sais ce que nous demandons aux enseignants, je sais ce que nous demandons aux parents d'élèves, je les en remercie et je sais qu'il y a de la lassitude, je sais qu'il y a parfois de l'énervement. Je pense que nos enfants et nos adolescents sont la chose la plus importante et donc on doit continuer de veiller sur eux avec le plus de bon sens et de précautions possibles.
Bon sens et précautions qui ne semblent pas entamer le mécontentement des parents et des enseignants. On a déjà vu la crise sanitaire s'inviter dans la campagne, sauf que c'était un choix d'Emmanuel Macron quand le président a fait parler sa colère, disant vouloir emmerder les non-vaccinés. Cette fois, on a le sentiment au contraire que le chef de l'État tente de désamorcer une colère qui monte. Jacques Sorey, la gestion de la crise sanitaire à l'école peut devenir un problème politique majeur pour l'exécutif.
Oui, et un ministre se retrouve au cœur de la tempête, Jean-Michel Blanquer, les oppositions de droite avec la LR Annie Genevard.
Vous ne pouvez pas rester sourd à la désorganisation complète du pays, mais regardez autour de vous.
Comme de gauche, par la voix du communiste Fabien Roussel.
Avec vous, c'est école ouverte, mais classe fermée.
Se déchaîne contre lui et le ministre de l'Éducation de tenter de se justifier.
L'arrivée du variant Omicron change la donne et crée du désordre.
Jean-Michel Blanquer sous pression, d'autant plus que les critiques proviennent également de son propre camp. La semaine dernière, Emmanuel Macron lui-même admettait l'erreur de son ministre devant une enseignante. « Vous avez raison, je vous donne le point, il faut plus d'anticipation », concédait-il. Un brin agacé par la publication du protocole par voie de presse la veille de la rentrée. Une semaine plus tard, c'est Jean Castex qui monte au créneau pour dévoiler un nouveau protocole. Dans la Macronie, certains y voient là un désaveu du Premier ministre pour le locataire de la rue Grenelle. Et si Matignon reprend ce dossier, c'est que l'exécutif sent un vent de colère monter chez les Français. À 3 mois de la présidentielle, l'exécutif qui capitalise sur la gestion de la crise sanitaire n'a aucune envie de perdre des points dans cette dernière ligne droite.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les chiffres ce soir confirment les craintes d'Olivier Véran, le ministre de la Santé qui s'attendait à un raz-de-marée des contaminations. Eh bien, Santé publique France enregistre 368 000 cas de Covid en 24 heures. Nouveau record absolu. Le télétravail, lui, n'est pas à la hauteur, s'agace le gouvernement après ce sondage Harris Interactive pour le ministère du Travail et qui montre que le recours au télétravail n'a pas décollé. La part de télétravailleurs début janvier reste stable par rapport à décembre. Les autotests étaient déjà une denrée rare. Or, avec les nouvelles règles en vigueur à l'école, eh bien, les besoins vont encore augmenter. Les autotests sont désormais les seuls nécessaires pour les élèves cas contact. La question qu'on se pose, Marion Gauthier, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde ?
Alors, dans les pharmacies où vous pourrez venir chercher des autotests gratuits, ils arrivent, assure la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Près de 17 millions ont été commandés, en plus des 5,5 millions déjà en officine. 2/3 des pharmacies ont un stock tampon, c'est-à-dire une centaine de boîtes en réserve. Le tiers restant est à court, concède Philippe Besset, mais le président de la Fédération soutient qu'il n'y aura que des micro-pénuries 1 à 2 jours maximum.
Je ne pense pas qu'il y aura des ruptures de stock. La fabrication va vraiment bon train. Nous avons beaucoup d'entreprises françaises qui fabriquent. Je suis confiant sur le fait que nous sommes en capacité d'avoir vraiment des dizaines de millions de doses tests dans la durée.
Pas d'inquiétude non plus du côté de la grande distribution. Les stocks ont été rapidement écoulés, mais des réapprovisionnements sont prévus. Plus de 400 000 autotests attendus demain chez Auchan. Intermarché monte à 6 millions le nombre d'écouvillons qui vont à nouveau remplir les rayons entre aujourd'hui et la fin de la semaine. Moins de 2 euros l'unité, alors que les prix peuvent monter jusqu'à 5,20 euros en pharmacie. Pour le moment, les grandes surfaces n'ont l'autorisation de vente que jusqu'à la fin du mois de janvier.
Marion Gauthier. 800 000 Français pourraient voir leur passe sanitaire désactivé dès samedi. C'est la date butoir fixée en novembre par le gouvernement. Désactivé donc s'ils n'ont pas fait leur rappel de vaccin à temps. Le ministère de la Santé espère toutefois que ce chiffre est surestimé. Christian Jacob saisit la commission des comptes de campagne sur les déplacements d'Emmanuel Macron. Le président des Républicains est convaincu que le chef de l'État fait campagne sans le dire et qu'il utilise le budget de l'Élysée pour ses besoins de candidats non déclarés. Prière de laisser le Karcher à sa place, c'est-à-dire au rayon bricolage et loin de la politique. Dans un communiqué, Karcher déplore ainsi des propos déplacés de Valérie Pécresse quand la candidate LR dit vouloir sortir le Karcher de la cave dans une métaphore sécuritaire empruntée à Nicolas Sarkozy. Eh bien, le fabricant Karcher demande aux politiques de cesser immédiatement tout usage de sa marque.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'est une vidéo qui a beaucoup choqué sur Internet. On y voit des piétons agrippés depuis l'habitacle d'une voiture qui accélère, les obligeant ainsi à courir jusqu'à tomber par terre. La scène a été filmée le week-end dernier dans les rues de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. L'enquête progresse vite puisque 2 suspects passent la nuit en garde à vue. Le conducteur et le passager qui a filmé la scène, tous deux doivent répondre de violence en réunion et avec préméditation. Vous avez échangé avec l'un des passants agressés, William Molinier. C'est un témoignage européen traîné sur plusieurs mètres. La victime a déposé plainte.
Oui, cette plainte a été déposée dimanche après-midi. Ali, 67 ans, est un retraité de nationalité algérienne. Quand il pousse les portes du commissariat de Noisy-le-Sec, il est encore contusionné, des blessures aux jambes, aux bras, à la tête. Dimanche, vers 7h45, il se dirige vers le bar à côté de son domicile où il prend régulièrement son café. Et c'est là que les ennuis commencent. Au micro d'Europe 1, Ali raconte comment il se fait traîner sur une centaine de mètres par un véhicule.
Et un monsieur, j'étais 4, trois ou quatre dans la voiture, il m'a demandé une cigarette. Il m'a dit, est-ce que tu as une cigarette? J'ai dit, bien sûr. J'ai voulu donner la cigarette, il m'a saisi la main, il ne l'a pas lâché, il a accéléré la voiture, il a roulé sur 100 mètres, il m'a lâché, je suis tombé la tête par terre, la tête la première sur le macadam.
Et l'histoire ne s'arrête pas là. Hier, Ali est approché par un homme alors qu'il fait ses courses au marché. On lui demande de retirer sa plainte en échange d'argent.
Il m'a dit, si tu retires ta plainte, le gars, il te donne 1000 euros ce soir. Je lui ai dit, je retire pas ma plainte, ça m'intéresse pas, j'ai des soins à faire.
Concernant ces agresseurs, deux d'entre eux sont en garde à vue. Le conducteur est âgé de 24 ans, le passager, celui qui a filmé la scène, en a 23. Lui, il est déjà connu pour des faits de violence en réunion. Une enquête est ouverte. Ali a vu ce matin un médecin. Il a bénéficié de 45 jours d'ITT.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. À chaque fait de violence contre un député, l'Assemblée nationale se portera partie civile, prévient son président dans un entretien au Monde. Richard Ferrand qui réunit ce soir Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, ministre de l'Intérieur et de la Justice, à la recherche d'une mobilisation collective contre la multiplication des agressions d'élus dans le contexte de la crise sanitaire. 4 ans après le drame de Millas dans les Pyrénées-Orientales, la conductrice du car scolaire sera jugée en correctionnel pour homicide involontaire. 6 collégiens ont trouvé la mort dans la collision de leur car avec un train à passage à niveau. Fabien Bourgeonnier est le père de Loïc, l'un des collégiens tués dans la collision. Il espère voir établie la responsabilité de la conductrice du bus.
L'essentiel, c'est qu'elle soit jugée. Après, ça ne nous ramènera pas nos enfants, malheureusement. Qu'elle prenne 1 an, 2 ans, 3 ans ou 20 ans, nos enfants, on ne les verra plus. Je ne sais pas bien, je suis mort. J'ai perdu mon fils. Chaque parent, on a perdu les 6, on a perdu un enfant. Vous voulez où qu'on aille après ça? On peut pas perdre un enfant comme ça, c'est pas dans l'ordre des choses. On doit essayer de vivre avec, parce que malheureusement, et heureusement, parce que moi j'ai encore 2 enfants derrière, donc eux n'ont rien demandé, ils ont pas mérité tout ça. Et elle est bien, c'est pas possible. On n'a pas fait d'erreur de conduite, on n'a fait aucune erreur, on a pris perpétuité. Elle a détruit nos vies. C'est vrai qu'on joue à marquer dans le journal, où les juges la trouvent pas responsable, pour moi elle s'est pas arrêtée, donc pour moi elle est responsable. Moi ce que je veux, c'est qu'elle paye, voilà. C'est qu'elle réponde de ses actes.
Fabien Bourgeonnier avec Benjamin Péter, notre correspondant dans le Sud-Ouest. Vous l'avez sans doute remarqué, en ce début d'année, les prix des carburants battent de nouveaux records historiques à la pompe. 1,59€ pour un litre de gazole, 1,68€ pour le sans-plomb 95. À ce rythme, faire le plein d'essence va vite devenir un luxe. Carole Ferry, alors comment expliquer cette nouvelle flambée des prix ?
Bien, c'est simple, hein, ça s'explique par la hausse des prix du pétrole brut. Alors pourquoi le prix du baril augmente ? Eh bien d'abord, à cause de la reprise économique. Nous avions déjà enregistré une flambée des prix en octobre. Ensuite, ça s'est un peu calmé sous la menace des reconfinements un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la menace au moins des reconfinements s'éloigne et donc la demande redémarre. Vous ajoutez à cela les tensions en Libye ou au Kazakhstan qui tendent les marchés. Et puis l'OPEP, l'Organisation mondiale des pays producteurs de pétrole, qui vient à nouveau de signer un accord pour limiter la production. Plus de demandes, moins d'offres, et bien mécaniquement cela fait grimper les prix. Alors en octobre dernier, le gouvernement a répondu à cette hausse par le chèque inflation de 100 euros distribué à tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Pas de nouveau coup de pouce envisagé pour le moment. Bercy se débat déjà avec les prix de l'électricité. Et puis vous avez toujours ce dilemme entre préservation du pouvoir d'achat et subvention aux énergies fossiles.
Carole Ferry, dès hier sur Europe 1, on vous dévoilait cette prouesse médicale qui nous fait faire d'un coup un bond dans le futur. Depuis 4 jours maintenant, un homme, un Américain de 57 ans, vit avec le cœur d'un porc génétiquement modifié. On tient là une première mondiale, première fois qu'un cœur d'animal est greffé dans un corps humain sans rejet immédiat. Le receveur était évidemment volontaire, c'était pour lui la seule alternative à la mort. La greffe a été réalisée par des chirurgiens de l'université du Maryland et elle semble prendre l'or d'Autriche.
Oui, tout à fait. Et pour que cela fonctionne, l'animal dont provient le cœur greffé a été auparavant génétiquement modifié pour qu'il ne soit pas rejeté par le corps humain. Le cœur porcin a ensuite été conservé dans une machine et parallèlement, l'homme de 57 ans qui a été transplanté devait prendre un nouveau médicament qui permet d'inhiber le système immunitaire et aussi d'empêcher que le corps rejette l'organe. Alors pourquoi les médecins ont-ils choisi un cœur de porc ? Eh bien parce que le porc est humain donneur d'organes idéal en raison de sa taille et de sa croissance rapide. Et puis il est mieux accepté aussi par le corps humain parce que l'homme consomme déjà du porc dans son alimentation. C'est une avancée chirurgicale majeure qui pourrait aussi être une solution face à la pénurie d'organes, explique l'équipe médicale qui a réalisé l'opération. Aux États-Unis, plus de 100 000 Américains attendent une greffe d'organes et 6 000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année. En France, ce sont 24 000 personnes qui attendent une greffe.
L'or d'Autriche. Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret. On peut se dire, Marlène, qu'on part pour un temps calme et sec, au moins jusqu'à dimanche.
Oui, a priori, les conditions anticycloniques sont bien installées. Alors, pour commencer la journée, demain, ciel gris. Simplement de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France, en passant par la Normandie et puis en débordant un petit peu sur l'Île-de-France avec quelques bruines possibles en matinée près de la Manche. En fait, c'est une perturbation, mais comme elle est bloquée par les conditions anticycloniques, eh bien, ça donne un petit peu de bruine. Voilà, c'est vraiment une trace nuageuse. L'après-midi, seule la Loire-Atlantique et la Vendée connaîtront une amélioration avec du soleil. Alors, le soleil, oui, sera là. Dès le matin, pour le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça monte comme ça jusqu'au Savoie. La Corse est concernée, au pied des Pyrénées aussi, mais ailleurs, il va falloir patienter. Car on va retrouver ces phénomènes de grisaille et de brouillard propres aux conditions anticycloniques l'hiver, surtout dans les plaines et les vallées. Donc des brouillards qui peuvent être givrants entre le Lyonnais, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Il va faire froid par là-bas, beaucoup de températures négatives. Et puis cette grisaille peut avoir tendance à se dissiper très lentement, on le sait, notamment vers la vallée de la Garonne, le Val de Saône, c'est un grand classique. Mais a priori, le soleil devrait s'imposer une fois la grisaille dissipée. Quant aux températures, eh bien, elles vont rester positives au nord-ouest sous le ciel gris et puis en bord de mer, mais dans l'intérieur, là, beaucoup de gelée. Plutôt marqué, généralisé, il fera jusqu'à moins 6, moins 7 degrés dans le massif central, les Préalpes jusqu'au contrefort jurassien, ça c'est pour les valeurs les plus basses. En journée, les maxis seront généralement comprises entre 2 degrés à Mulhouse et 10 à Bordeaux avec 6 degrés dans la capitale. Elles peuvent atteindre 9 à 12 degrés en Bretagne ou encore 10 à 15 sur le pourtour méditerranéen.
Merci Marlène Duret, rendez-vous à minuit avec vous pour un nouveau point météo dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. À tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui se reprend un peu ce soir avec l'aide des valeurs technologiques.
Ça va mieux à Wall Street qui rebondit assez nettement avec un Dow Jones qui remonte de 0,51%, 36 252 points et surtout oui, le Nasdaq gagne 1,4%, 15 153 points. L'audition du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, devant le Sénat américain a rassuré les marchés sur la capacité de la Fed à remonter progressivement les taux d'intérêt cette année pour maîtriser l'inflation. Tenter de maîtriser l'inflation. Sans doute 4 hausses des taux prévues en 2022. Ça donne donc un rebond assez net des valeurs de technologie. Intel plus 1,2%, Apple plus 1,7%, 175 dollars. Amazon reprend même plus de 2%, 2,4%. Microsoft plus 0,2%, Tesla plus 0,6% à 1064 dollars, Google plus 0,7%. Le pétrole grimpe aussi de 3,7%. Ça remonte fort sur le baril à 81,40 dollars. Du coup, Exxon, le géant pétrolier américain, rebondit de plus de 4%, 71,34 dollars. L'euro reste assez stable, 1,1370 face au dollar.
La Bourse de Paris a mis fin, elle aussi, à une série de 3 séances de baisse.
Oui, là aussi, ça va mieux, avec un rebond de 0,95%. Le CAC 40 remonte à 7183 points. Quelques grandes valeurs industrielles ont sonné la charge, comme Alstom, encore en hausse de 3%, 34 euros. Après un nouveau contrat signé cette fois en Norvège, portant sur 200 trains régionaux pour 1,8 milliard d'euros. Alstom en forte hausse de plus de 3%. Le secteur du luxe aussi a rebondi avec Kering plus 2,5%. Le broker RBC est positif sur Kering et s'attend à des acquisitions de la part du groupe de luxe cette année. LVMH reprend aussi 1% à 710 euros. Ça remonte du côté de Schneider aussi, plus 2% pour Schneider. Virbac plus 2% avec Score.
Exception du jour, Didier, le titre Technip, Technip qui n'a pas profité du rebond de la journée.
Oui, c'est une des rares valeurs en baisse dans le rouge, moins 1,7% Technip FMC à 5,85 euros. Le groupe parapétrolier va quitter la Bourse de Paris le 17 février prochain pour ne plus être coté qu'à Wall Street. Une clarification qui fait place nette pour la nouvelle entité Technip Énergie qui a grimpé du coup aujourd'hui de 6% à 13,98 euros. Les autres places financières sont en hausse, globalement en Europe ça remonte, le DAX à Francfort plus 1,1%, Bruxelles plus 0,5%, Milan +0,6, Madrid +0,4 et le CAC 40 donc +0,95%, 7183 points.
Merci Didier Hamot. Omicron sème la pagaille à l'école, dans les hôpitaux, mais le monde de l'entreprise, lui, reste optimiste. Car d'après Eurogroup Consulting, eh bien les patrons gardent le moral. L'invité éco ce soir, Gilles Bonenfant, président d'Eurogroup Consulting, il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Gilles Bonenfant.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président d'Eurogroup Consulting, qui fait partie de ces gros cabinets qui conseillent les entreprises. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous venez de faire sortir votre baromètre des grandes entreprises Eurogroup Consulting. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'à la lecture de votre baromètre, on a un peu l'impression que tout va bien. Il suffit de lire le titre, 2022, la tentation de l'enthousiasme. C'est dire, c'est quasiment poétique tout ça.
Ben, écoutez, c'est d'abord une bonne nouvelle qui a un vent de dynamisme et de confiance, voire de croyance des chefs d'entreprise dans leur avenir. Alors, chaque année, nous publions ce baromètre des grandes entreprises. Il corrobore ce que nous voyons, nous, Eurogroup Consulting, en tant que cabinet de conseil auprès de nos clients. Oui, c'est un vent d'enthousiasme.
Mais en quoi cette année, vous sentez encore plus cet enthousiasme? Je peux donner des chiffres, hein, ils sont 71%, ces grands patrons et ces grandes entreprises, à se déclarer optimisme, avec des prévisions qui restent largement orientées à la hausse. Un autre chiffre qui est impressionnant concernant ces prévisions, c'est-à-dire que 94% des entreprises disent que les prévisions sont en hausse ou stables. C'est ça qui fait qu'il y a de l'enthousiasme?
Ben oui, on a 11 points de plus sur le dernier indice que vous venez d'évoquer. On a 11 points de plus que l'année dernière. Cet indice est la somme de 4 critères qu'on regarde depuis des années. L'aspect rentabilité, l'aspect activité, l'aspect investissement et l'aspect effectif, recrutement. Et sur la somme de ces 4 critères que nous regardons à la fois d'un point de vue international et d'un point de vue France, la somme de ces quatre critères donne une amélioration spectaculaire puisqu'on est à 94%, 11 points de plus que l'année dernière. Et quand on teste le côté optimiste, on est à 71% et là également supérieur à l'année dernière. Donc c'est une trajectoire sur l'année 2022. Ça prouve quoi? Ça prouve que les chefs d'entreprise ont à la fois développé de la résilience, de la réactivité et puis une capacité à jouer, à travailler, à jouer de ces vagues, de ces soubresauts et croient en confiance dans l'engagement de leurs équipes dans la durée. Donc oui, un vent d'optimisme, un vent d'enthousiasme. Et pourquoi on dit finalement cet enthousiasme et une tentation de l'enthousiasme? Parce que, bon, on sait bien, il y a une vague là qui se termine peut-être bientôt.
Mais ce qui est intéressant justement sur ce point, et je voulais le préciser, c'est qu'une partie du panel a été refait du 3 au 6 janvier dernier, justement pour prendre en compte ces évolutions, puisque la grande partie de l'enquête avait été faite entre la mi-novembre et début décembre. Et ça n'a pas changé, semble-t-il, les résultats. C'est-à-dire que si on se regarde à titre personnel, on a confiance, on a peut-être un petit peu plus peur quand on regarde au global, mais c'est ça aussi qui ressort de cette enquête.
Oui, puis il ne faut pas mélanger deux choses, qui est une conjoncture du mois de janvier, et peut-être une autre dans une vague à venir, et une trajectoire sur l'année 2022. On a des projets d'avenir, les clients pour lesquels nous travaillons ont des projets d'avenir, les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui sont des projets d'investissement, sont des projets de développement en France ou à l'international, et tout ça est de bonne aloi. On a une conjonction qui fait ça. D'abord, l'agilité des dirigeants, je disais tout à l'heure, l'engagement fort des collaborateurs également. Et puis, faut pas négliger une impulsion économique et politique qui a été à la hauteur de ces soubresauts. Une ambition française, une ambition européenne qui apparaît plus forte que jamais. Donc, c'est ce qui caractérise finalement cet enthousiasme. Alors, pourquoi tentation? Parce que ça semblait peut-être un peu trop fort.
Parce qu'on est français, parce qu'on a toujours peur que ce qui se présente de positif à nous ne se concrétise pas, non?
Non, je crois qu'on appréhende les vagues, on appréhende la lassitude, on se demande à quelle sauce le variant va nous manger. Et donc, on a des points d'hésitation. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, on voit bien que le variant Omicron, en tout cas celui-là, diminue. En Angleterre, pareil. Donc, on est dans cette logique-là. Et puis,
effectivement, c'est ce qu'on peut espérer. Mais il y a un point très important sur lequel je voulais revenir avec vous, Gilles Bonenfant, c'est vous parliez d'investissement. Et peut-être plus que jamais, et on pourrait dire enfin, investissement dans l'humain, puisque 37% des entreprises sondées disent avoir des perspectives de recrutement très positives. Et surtout, deux enjeux enfin majoritaires. 60% misent pour attirer et fidéliser les talents. 55% pour maintenir l'engagement des collaborateurs. On le dit beaucoup sur l'antenne d'Europe 1, il y a de gros problèmes de recrutement. Mais ça a un impact, ça change
la politique des entreprises? Elles vont faire plus attention à leurs collaborateurs?
Je crois qu'il y a deux phénomènes. D'abord, je voudrais, avant de répondre à votre question directement, on teste les priorités. Et il y a deux priorités qui sont au même niveau cette année. C'est la première fois que ça arrive. Rentabilité des entreprises et aspect ressources humaines. C'est essentiel. Donc finalement, les deux vont de pair. Et ça, c'est un phénomène qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'affrontera pas 2022-2023 si on n'a pas une rentabilité d'entreprise, tout le monde est conscient, mais si on n'a pas des collaborateurs qui sont là à nos côtés. Donc c'est là où on a le point d'attraction et de fidélisation que vous évoquiez tout à l'heure, mais également le comment on maintient cet engagement dans la durée. Et on peut se satisfaire également dans la note qui est donnée sur la mobilisation des équipes, des dirigeants, dit on a quasiment 4/5 de qualité de mobilisation des équipes. Donc je ne crois pas qu'on ait une logique beaucoup plus que ce qu'on l'a été. Il est évident que toute cette
période-là... On a quand même l'impression, tout le monde le dit, qu'on arrive dans une politique où c'est les candidats et les candidates qui ont le pouvoir, qui peuvent dire non, qui viennent pour certains pas au rendez-vous, qui disent oui, puis finalement, il y a une offre plus intéressante qui se présente, ils vont chez le voisin. Ça oblige les entreprises à travailler les relations humaines, les ressources humaines.
Vous avez raison, mais ce cycle-là de l'offre et de la demande d'emploi, depuis 20 ans ou 30 ans, on l'a vécu à plusieurs périodes. Je pense qu'il y a un élément qui est peut-être nouveau, je vais le dire sottement, on est en 2022, et donc en 2022, on voit bien qu'on a un regard sur les RH, on a un regard sur l'attention aux gens qui est éminemment différent et qui n'est pas simplement lié aux crises Covid, c'est lié aux effets générationnels, c'est lié aux nouveaux outils de fonctionnement qu'on a. Nos entreprises ont tenu grâce à un certain nombre d'outils qui sont précieux pour tenir, mais qui ne favorisent pas toujours le lien humain. Donc c'est tout ça qui fait que, voilà, il y a cet équilibre que je trouve très fort, d'avoir au même niveau deux grandes priorités pour l'année à venir, rentabilité des entreprises et engagement et attention, rotation.
Et enfin,
il y a deux points d'attention, c'est sur les risques qui sont évoqués. Donc les risques sanitaires, bien évidemment, sont là. Les risques cyber.
Ce que vous dites, ce qui est marrant, c'est que les risques géopolitiques, qui pourtant n'ont peut-être jamais été aussi importants qu'en ce moment, c'est comme si les chefs d'entreprise ne les regardaient pas.
Les dirigeants qui ont répondu ont mis les risques géopolitiques en 6e position, ce qui pour moi me semble un peu faible. C'est-à-dire, je pense qu'on est exposé. On est exposé sur des sujets d'approvisionnement, on est exposé sur des sujets de matières premières, on est exposé sur des sujets de coûts de l'énergie. Et là, je dis attention, prudence. On voit qu'il y a même des pays dans le monde qui se ferment, des frontières qui se ferment plus qu'il y a quelques années. Alors peut-être qu'une part des répondants ont splitté leur regard entre la partie approvisionnement, risque d'approvisionnement et risque géopolitique. Mais c'est vrai que c'est une surprise, j'aurais imaginé que ce soit un peu plus fort.
Et on va retenir cette tentation de l'enthousiasme. Un grand merci Gilles Bonenfant. Je rappelle que vous êtes le président d'Eurogroupe Consulting et que vous venez de faire sortir ce baromètre des grandes entreprises. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain avec Elisabeth Assayag sur Europe 1 de 13h à 14h dans La France Bouge. Vous vous intéresserez au boom du marché de la voiture d'occasion. Votre invité sera le patron d'Aramis Auto.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Nous sommes maintenant à moins de trois mois du premier tour. La campagne, demain, à la une des quotidiens, avec du Jean-Luc Mélenchon dans le texte, à la une de Libé. Donnez-moi le mandat et vous allez voir. Le vaccin, l'abstention, les outrances, la gauche et ses chances. Le leader de la France insoumise, le mieux placé des candidats de son camp, écrit Libé, répond aux questions du quotidien, à trois mois donc du premier tour. Un candidat de plus, mais c'est pour tout simplifier, ironise l'opinion, alors que Christiane Taubira pourrait se déclarer avant la fin de la semaine. Hidalgo Taubira, balle tragique à gauche, s'amuse l'opinion. L'ex-garde des Sceaux et la maire de Paris savent qu'il n'y aura pas de place pour leurs deux candidatures. Entre elles, une guerre des nerfs s'est donc installée pour faire céder l'autre. La grogne contre le nouveau protocole sanitaire à l'école est à la une du Figaro. Les enseignants répondent par la grève au cafouillage des mesures anti-Covid. Entre tests en série, contamination et profs absents, l'école est au bord de la crise de nerfs, écrit le Figaro. Les syndicats d'enseignants appellent donc ce jeudi à la grève. Ils sont soutenus en cela par la première fédération de parents d'élèves. 22h30, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Comment ça va ce soir Olivier?
Écoutez, comme d'habitude, je vais très bien et de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire. Le teint allé, je suis de retour, je suis de moins en moins décalé, donc tout va bien.
Au taquet maintenant.
Au taquet.
Terminé le jet lag.
Voilà, c'est terminé, il faut remettre les mains dans le cambouis et y aller gaiement.
Eh ben, vous avez raison.
Exactement. Et nous, on se retrouve à 23h pour votre flash.
À tout à l'heure.